Lecture des lettres des pères du désert, une émission proposée par Hélène.
Voici une série d'émissions consacrées aux lettres des pères du désert, le plus souvent adressées à leurs moines et concernant la vie d'anachorète, c'est-à-dire seule au désert, ou celle de cénobite, c'est-à-dire vivant dans un monastère. Ces écrits sont d'une grande fraîcheur, malgré les quelques 15 siècles qui nous séparent d'eux, et d'une grande utilité pratique pour ceux qui désirent suivre le chemin du Christ. Ils nous incitent à l'humilité pour s'opposer radicalement à l'orgueil de Satan. Ils nous incitent aussi à l'amour sans limite pour entrer dans le royaume dès ce siècle. Du ressentiment. Le ressentiment est l'aboutissement de la colère, le gardien des péchés, la haine de la justice, la ruine des vertus, le poison de l'âme, le ver rongeur de l'intellect, la honte de la prière, le tarissement de la supplication, l'aliénation de l'amour. C'est un clou enfoncé dans l'âme, un sentiment désagréable, aimé dans la douceur de l'amertume. Un péché continuel, une iniquité toujours en éveil, une malice de toutes les heures. Celui qui a apaisé la colère a éteint le ressentiment. Celui qui a acquis la charité a banni la vengeance. Mais celui qui cultive l'inimitié accumule pour lui des labeurs inopportuns. La table de la charité dissipe la haine et des dons sincères adoucissent l'âme. Mais une table mal réglée engendre la liberté d'allure et par la fenêtre de la charité, la gourmandise saute à l'intérieur. Le ressentiment est éloigné de la charité solide et véritable. Mais la fornication s'en approche facilement, et tu apercevras la vermine s'infiltrer sous les plumes de la colombe. Dirige tout ton ressentiment contre les démons, et de toute ta haine, hais sans cesse ton corps, la chair est une amie ingrate et fourbe. Plus tu en prends soin, plus elle te fait du tort. Tu sauras que tu es entièrement débarrassé de cette infection du ressentiment, non pas simplement si tu pries pour celui qui t'a offensé, ni si tu échanges avec lui des présents, ni si tu le convies à ta table, mais seulement si, apprenant qu'il est tombé dans quelque malheur spirituel ou corporel, tu souffres et pleures sur lui comme sur toi-même. L'hésicaste rancunier est une vipère cachée dans un trou et qui porte au-dedans d'elle-même un poison mortel. Le souvenir des souffrances de Jésus guérit l'âme du ressentiment par l'extrême confusion où la met l'exemple de la mansuétude. Les vers naissent dans le bois pourri et le ressentiment s'installe chez ceux qui ne sont doux et paisibles qu'en apparence. Celui qui l'a rejeté a trouvé le pardon, mais celui qui s'y attache est exclu de toute compassion. Certains, pour obtenir le pardon, se livrent avec ardeur aux travaux et aux sueurs, mais l'homme qui oublie les offenses les surpasse. Car elle est vraie cette parole. pardonnez promptement et il vous sera abondamment pardonné. L'oubli des offenses est l'indice d'une sincère pénitence. De la médisance. Nul homme sensé, je pense, ne contestera que la médisance est engendrée par la haine et la rancune. C'est pourquoi elle vient à son rang après ceux qui l'ont engendrée. La médisance est un rejeton de la haine, une maladie subtile mais grave, une sangsue cachée qu'on ne sent pas, mais qui épuise et tarit le sang de la charité. C'est une simulation de l'amour, la cause d'un cœur souillé et alourdi, la ruine de la pureté. Si quelqu'un veut vaincre l'esprit de médisance, qu'il n'incrimine pas celui qui a commis la faute, mais le démon qui l'a suggéré. Personne, en effet, ne veut pécher contre Dieu, même si c'est sans y être contraint que tous nous péchons. N'aie pas de fausse honte devant celui qui te dit du mal de son prochain, mais réponds-lui plutôt « Arrête, frère, je tombe moi-même chaque jour dans des fautes plus graves. Dès lors, comment pourrais-je condamner celui-ci ? » Le feu est contraire à l'eau. De même, juger les autres est étranger à celui qui veut faire pénitence. Ces censeurs hâtifs et sévères de leurs prochains tombent dans cette passion parce qu'ils ne gardent pas parfaitement le souvenir et le souci constant de leur propre péché. En effet, si quelqu'un débarrassé du voile de l'amour de lui-même voyait exactement ses propres maux, il ne pourrait plus se soucier d'autre chose sa vie durant. Il estimerait que tout le temps qui lui reste ne lui suffirait pas pour s'affliger sur lui-même. Vivrait-il 100 ans et verrait-il toutes les eaux du Jourdain couler de ses yeux en torrents de larmes? Les démons nous contraignent soit à pécher, soit, si nous ne péchons pas, à juger ceux qui pêchent, afin de souiller notre innocence par ce jugement. Juger les autres, c'est ne pas avoir honte d'usurper une prérogative divine. Les condamner, c'est ruiner notre propre âme. Un bon vendangeur mange les raisins mûrs et ne cueille pas les raisins verts. De même, un esprit bienveillant et sensé notera soigneusement toutes les vertus qu'il verra dans les autres, mais l'insensé scrute les fautes et les déficiences. C'est de ce dernier qu'il est dit « Ils ont scruté l'iniquité et se sont épuisés dans cette recherche. » Psaume 63. Du bavardage et du silence. Le bavardage est la chair sur laquelle la vaine gloire aime à se faire voir avec ostentation. C'est la marque de l'ignorance, la porte de la médisance, l'introducteur de la bouffonnerie, le serviteur du mensonge, la ruine de la componction. L'artisan et l'huissier de l'assédie, le précurseur du sommeil, la dissipation du recueillement, l'anéantissement de la vigilance, le refroidissement de la ferveur et l'obscurcissement de la prière. le silence avec connaissance est la mère de la prière, la délivrance de la captivité, la préservation du feu, le surveillant des pensées, le guetteur des ennemis, la prison pour l'affliction, l'ami des larmes, l'artisan de la pensée de la mort, le peintre du châtiment, l'amateur affairé du jugement, le soutien de l'inquiétude salutaire, l'ennemi de la liberté d'allure, le compagnon de l'Ézéchia, l'adversaire du désir d'enseigner, l'auxiliaire de la connaissance, l'artisan de la contemplation, un progrès invisible et une ascension secrète. Celui qui a pris conscience de ses fautes garde sa langue, mais le bavard ne se connaît pas encore comme il le devrait. L'ami du silence s'approche de Dieu, et en s'entretenant avec lui dans le secret, il reçoit sa lumière. Le silence de Jésus confondit Pilate, et l'Ézéchia d'un homme détruit la vaine gloire. Le bavardage est toujours engendré par l'une de ces trois causes. Des actes répétés et une habitude mauvaise et déréglée, car la langue, étant membre du corps, se plie comme les autres à l'entraînement de l'habitude. Ou bien, surtout dans le cas des combattants généreux, c'est la vaine gloire qui en est la cause, sinon la gourmandise. C'est pourquoi il arrive souvent que ceux qui maîtrisent leur estomac réfrènent aussi leur langue avec sa loquacité, grâce à la violence qu'ils s'imposent et à l'affaiblissement de leurs forces. Il est difficile d'empêcher que ne se répande une eau que rien ne retient. Il est plus difficile encore de dompter une langue intempérante. de l'assédie ou de l'impossibilité de rester en place. Aspect de la spiritualité particulièrement développé par les moines du désert. L'assédie est un relâchement de l'âme, un laisser-aller de l'intellect, la négligence de l'ascèse, la haine de l'état monastique. Elle proclame bienheureux les gens du monde et accuse Dieu d'être impitoyable et sans amour pour les hommes. Elle est une langueur dans la psalmodie, une faiblesse dans la prière, une application infatigable au service extérieur, un empressement au travail des mains, une aptitude à l'obéissance. Le monastère cénobitique est contraire à l'assédie, mais celle-ci est la compagne perpétuelle de l'hésychaste, c'est-à-dire celui qui vit seul. Elle ne le quittera pas avant sa mort, et jusqu'à son dernier souffle, il devra la combattre chaque jour. Elle sourit en voyant la cellule d'un anachorète, s'en approche furtivement et prend ses quartiers à proximité. Le médecin visite ses malades le matin, mais pour l'ascète, c'est vers le milieu du jour qu'est l'heure de la visite de l'assédie. Quand nous prions, elle nous rappelle quelque affaire indispensable et, déraisonnable elle-même, elle met tout en œuvre pour nous tirer hors de la prière par de bonnes raisons, comme par un licou. À la troisième heure, le démon de l'assédie nous donne des frissons, des maux de tête, des douleurs d'entrailles. À l'approche de la neuvième heure, le moine retrouve un petit peu de force et quand la table est servie, il saute de son lit. Mais quand vient l'heure de la prière, de nouveau le corps se sent accablé. Quand il est à la prière, le démon le plonge encore dans le sommeil et lacère chaque verset par des bâillements intempestifs. Chacune des autres passions peut être détruite par une vertu déterminée, mais l'assédie, pour le moine, est une mort qui l'enserre de tous côtés. Une âme courageuse peut ressusciter un intellect mourant, mais l'assédie et la paresse dissipent toute richesse. Comme ce vice est l'un des 8 vices capitaux et de tous le plus grave, j'emploierai avec lui la même procédure qu'avec les autres. Mais auparavant, ajoutons encore ceci. C'est à l'heure de l'assédie que se révèlent ceux qui se font violence, car rien ne procure autant de couronnes aux moines que l'assédie, s'ils travaillent inlassablement à l'œuvre de Dieu. Fais attention, et tu remarqueras que si tu te tiens debout, elle t'incitera à changer la position de tes pieds. Si tu es assis, elle te suggérera de t'appuyer contre le mur, puis elle te fera entendre un son ou un bruit de pas, et elle te persuadera de regarder hors de ta cellule. Celui qui s'afflige sur lui-même ne connaît pas l'assédie. Que ce tyran soit donc enchaîné par le souvenir de nos péchés, frappons-le rudement par le travail de nos mains, traînons-le en justice par la considération des biens à venir. Et quand il aura été ainsi amené à comparaître, interrogeons-le comme il le mérite, ce vice de l'assédie. Dis-nous, lâche et sans vigueur que tu es, quel est le misérable qui t'a engendré? Quels sont tes rejetons? Quels sont tes adversaires? Qui peut t'anéantir? Ainsi, contrainte, l'assédie semblerait répondre. Chez les vrais obéissants, je n'ai aucune place où reposer ma tête. J'en trouve une chez ceux avec qui je peux vivre dans les Ikias. J'ai des mères nombreuses et diverses, parfois l'insensibilité de l'âme, parfois l'oubli des réalités d'en haut, parfois aussi l'excès dans les travaux. Mes rejetons sont les changements de lieu que j'inspire, la désobéissance au Père spirituel, l'oubli du jugement et parfois même l'abandon de la vie monastique. Et mes adversaires, par qui je suis ici enchaîné, sont la psalmodie et le travail manuel. Mon ennemi, c'est la pensée de la mort. Ce qui m'anéantit complètement, c'est la prière, avec la ferme espérance des biens futurs. Quant à ce qui engendre la prière, demandez-le à celle-ci.